Et bonjour à tous et bienvenue dans un épisode de Bye Bye Patron. L'été touche à sa fin. D'ailleurs, je vous en ai parlé, reprise des visites pour Bye Bye Patron. Vous êtes sur mon podcast, le podcast de l'immobilier de la liberté, des gros billets. Et aujourd'hui, on va tordre le cou à des mythes et des fausses croyances sur l'immobilier qu'on entend partout, pas seulement chez Tata Jacqueline à repas de Noël, mais aussi sur YouTube, dans des personnes qui connaissent ou qui connaissent moins bien l'immobilier. Je vais vous faire part de mon expérience de plus de 13 ans maintenant d'investissement immobilier. Comment j'ai gagné de l'argent, comment j'en ai perdu, qu'est-ce qui s'est avéré vrai, faux. Tout ça, ce sera dans un épisode. Vous avez jamais entendu un épisode comme ça et je vais vous dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, qui est bien sûr ma vérité, la bonne vérité. Mais forcément, chacun a des niveaux différents en termes de projet de vie, d'expérience, de fonds, de liquidité, de ce qu'il veut faire ou non avec l'immobilier. On va essayer d'un peu tout couvrir, mais je vais vous partager des exemples précis de ce que je fais et éventuellement des gens de mon entourage que je connais via le podcast ou via les groupes d'immobilier. Comment est-ce que on rencontre des personnes brillantes pour les groupes d'immobilier ou même peut-être l'amour de sa vie, qui sait? Eh ben, on va à des événements immobiliers. On a déjà organisé plusieurs. J'en ai déjà organisé plusieurs à chaque fois avec des acolytes qui ont changé, qui sont tous brillants. Ça a commencé avec Michel, Manu, Jonathan et maintenant avec Eric aussi. Donc, pour rappel, on fait un événement à Toulouse du 7 au 9 novembre, événement mastermind pour les investisseurs qui sont confirmés quand même. Enfin, il faut déjà avoir des lots pour vraiment en profiter ou alors être entrepreneur. On a fait un tarif de lancement Early Bird, moins 250 € par personne. Organiser des événements, c'est très cher, notamment tout ce qui est la nourriture, l'hébergement, ça coûte très cher. Vraiment là, 250 € de réduction, c'est que encore pendant jusqu'au 31 août. J'ai un script carrément sur la page de vente, mais faites pas croire, je vais pas vous faire croire que c'est une fausse baisse de prix ou quoi. Il y a un script, si vous êtes informaticien, vous pouvez aller voir le script. Le code, il change le 31 août. Pas impossible après le 31 août de bénéficier des 250 € de réduction par personne. Donc, événement à Toulouse, si vous voulez accélérer dans vos projets de patrimoine d'investissement immobilier, grosbillet.com/Toulouse, vous avez le lien dans la description. J'en ai déjà parlé dans les autres épisodes, mais en gros, on organise ça à trois avec Eric, qui a fait une maison exceptionnelle. Il a fait les travaux lui-même. Il a financé un immeuble entier grâce à des gains crypto. Jonathan, qui a aussi un bon patrimoine immobilier, qui est en phase de s'expatrier en Espagne. Il a eu des business physiques, il en a revendu. Il est expert en financement de société. Et il connaît si bien les travaux. Et puis moi, votre hôte, depuis bientôt 5 ans. Voilà, moi, c'est l'immobilier, je vais vous en parler dans cet épisode. La bourse, l'intelligence artificielle, encore des dingueries qui se passent aujourd'hui avec toutes les sorties. ChatGPT-5, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il est sorti. On parle déjà de ChatGPT-6. Du coup, plus tous les lots. Je ne sais pas combien on a de lots à nous trois, mais ça doit être peut-être 60, 70 lots d'immobilier. On a plein de choses à vous raconter. On a aussi une femme brillante qui va venir parler comment quitter son métier de salarié grâce au business en ligne et pas un business de coach ou de dropshipping, un vrai business en ligne. Elle le fait depuis 4 ans, je crois. Plein de choses. Donc profitez des 250 €, vous aurez jamais un tarif aussi faible. Franchement, on gagne pas notre vie sur les événements immobiliers, c'est vraiment pour se rencontrer. Et là, le cadre, il est exceptionnel, la maison, elle est exceptionnelle, les gens qui seront là sont exceptionnels. Il y a déjà une bonne partie des places qui s'est vendue, mais il en reste. grosbillet.com/Toulouse, sinon si vous allez sur mon site grosbillet.com, vous l'avez en gros, ou sinon vous l'avez dans le lien dans la description. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, je suis reparti en visite. Ça y est, j'avais plus acheté de biens immobiliers. On en avait acheté 3 en janvier. Et depuis, si vous me suivez, moi, c'est le podcast de l'immobilier, de la liberté, des gros billets. Et j'ai un peu trop voyagé. Après ces achats, je crois que j'étais à Toulouse d'ailleurs, juste après, le jour même des 3 achats. Ensuite, j'étais à Dubaï, j'étais en Floride, je sais même plus, là, je suis parti en Bretagne, j'étais en Pologne. J'ai pas mal bougé. On était bien sûr à Alicante pour un autre événement immobilier qu'on a organisé avec Jonathan, qui était super bien. Plein d'avis Trustpilot, si vous en voulez, si vous voulez des preuves que c'est super bien, les événements, vous m'écrivez info@babypatron.net ou sur Instagram. Mais en tout cas, donc, événements, les événements, c'est génial. Et tout ça pour dire que j'ai pas mal bougé et j'ai pas eu le temps de repartir en visite. Bon, là, je commence quand même à atteindre le nombre de lots maximum, je trouve, qu'on peut gérer en sur le côté de ces autres activités qui sont pour moi activités dans la finance et puis tout ce qui tourne autour du podcast, des événements, des coachings, IMO, des formations. Donc voilà, c'est on peut pas tout faire. Pour moi, c'est la limite. Elle est connue, hein, si on délègue tout. Elle est entre 20 et 30 lots. Pour moi, c'est vraiment la limite. Après, il y a des lots qui coûtent 20 000 euros, il y a des lots qui coûtent 1 million d'euros. Hein. Mais à partir de là, je trouve que ça devient vraiment un business à plein temps et pas forcément le plus rémunérateur, mais on va voir ça un peu ensuite. Donc, tout ça pour dire que je suis reparti en visite et les agents immobiliers n'ont pas démenti à leur superbe réputation. Donc, j'ai eu le droit à des annonces immobilières où il était indiqué que c'était dans le meilleur quartier de la ville. Il s'avère que c'était dans la pire cité quand on appelle. Comme toujours, donc pour avoir, je dirais, pour avoir allez, 5 adresses de biens à visiter, il me faut, ça me prend peut-être 3 heures. Parce que voilà, dégrossir les annonces, ensuite écrire aux agents. Maintenant, ils ont très souvent des numéros de fixe en 2025. Donc, il y a ChatGPT d'un côté, il y a des numéros de fixe de l'autre côté. Ils sont en congé, ils veulent pas vous écrire par email. Mais je demande pas l'adresse exacte, le numéro et l'étage. Mais ils mettent des. On me dit oui, mais c'est pour pas qu'on nous vole le mandat. Il y a partout des panneaux dans la ville à vendre avec le nom de l'agence. Foutez de moi. Ouais, pour pas qu'ils passent en direct et tout, on va en parler dans l'épisode, mais en gros voilà, tu leur dis de te rappeler que t'es pas disponible dans l'après-midi, ils te rappellent directement, alors que c'est le premier truc, on se plaint des locataires qui se présentent pas alors que c'est le premier truc qu'on écrit. Tu mets en gros appelez-moi à partir de 18h, ou alors vous m'écrivez un email ou un WhatsApp, j'ai déjà acheté avec vous, il y a des gens, on a déjà acheté avec eux. Non, ils te mettent des trucs qui sont faux. Cœur de centre-ville, le truc, il est à 30 minutes à pied dans un des pires quartiers de la ville. Donc voilà, un agent que j'estime être un bon agent, alors pas dans l'absolu, mais de manière relative, eh ben, j'ai déjà acheté chez lui. Pareil, je lui demande une adresse, il me répond deux jours après, il me répond quoi ? Je suis en congé, merci de me rappeler à partir de mardi. Mais moi, quand j'ai des prospects, c'est moi qui les rappelle. Dès lors que quelqu'un me demande des renseignements et tout, c'est moi qui le contacte. Je dis pas aux gens, rappelez-moi dans 4 jours. Et il m'aurait envoyé juste la rue. Il est en congé, le temps qu'il m'envoie le SMS, il m'aurait mis la rue, c'était pareil. Bref, j'ai fait une story sur le bon coin sur le sujet. Ça a été ma story, je pense, la plus vue, la plus likée, la plus commentée depuis plusieurs semaines, parce que on est tous confrontés au même problème. Je pense honnêtement que s'il y avait juste les noms de rues dans les annonces, je pense que j'aurais deux fois plus de biens en ayant passé trois fois moins de temps. Parce que c'est vraiment la partie la plus chronophage, c'est un truc de malade d'avoir juste des adresses. Et après, les agents, ils vous appellent et toi, tu veux juste l'adresse, c'est un renseignement de 10 secondes et ils te tiennent la jambe pendant 5-10 minutes. Ah oui, mais j'ai des trucs qui vont rentrer pas du tout dans tes zones, pas du tout dans tes prix, pas du tout dans tes critères. Donc voilà, c'est très pénible, mais je sais que c'est comme ça, donc il faut s'y accrocher. J'ai quand même envoyé deux offres, pour rien vous cacher. Et y en a une. Alors voilà, pareil, une offre. J'ai fait mon offre, c'est la plus élevée de 500 euros sur un bien. Et l'agent, elle me dit, ouais, mais en fait, vu que le dossier, il est prêt pour celle 500 euros moins chère, du coup, soit vous augmentez encore votre offre, alors que c'est moi qui ai l'offre la plus élevée, soit ce sera pas pour vous. Du coup, franchement, déjà, je trouvais que mon offre, elle était ma fourchette haute de ce que j'étais prêt à payer. Donc, j'ai dit, non. Et là, je viens d'en renvoyer une autre. Là, on est dimanche 24 août. Je viens d'en renvoyer une autre. On verra ce que ça donne. Mais sinon, par contre, j'adore visiter. C'est toujours trop bien. Tu vois ta ville, la ville dans laquelle tu investis, de plein de points de vue dans des immeubles. T'es passé 1000 fois à côté. T'as jamais vu qu'ils ont une super belle vue dedans et tout. C'est trop bien. J'adore trop visiter. C'est juste organiser les visites qui est très pénible. Ensuite, je voulais vous faire un dernier point. Je vous l'ai annoncé dans l'épisode de la semaine dernière, on a déjà pas mal d'inscrits. On va faire un depuis chez vous parce que en fait c'est limité à 200 la plateforme de webinaire à 200 inscrits. Donc c'est tout à fait gratuit dimanche 31 août 20h30 avec Michel, mon associé de longue date, avec qui j'ai fait largement plus d'une dizaine, quinzaine de projets immobiliers. On organise un webinaire, les 3 secrets que 95% des investisseurs apprennent trop tard. L'idée, vraiment, la présentation, elle est faite, hein, elle est carrée, on en a parlé avec d'autres gens et tout. C'est vraiment de vous montrer comment on gagne vraiment de l'argent en immobilier et pas avec des fausses promesses que vous avez déjà entendues partout. Je parle pas non plus des fausses promesses genre abus ou trading, mais les trucs qu'on vous dit, si vous faites ça, eh ben, vous allez avoir ça. Et en fait, nous, on va vous expliquer avec notre expérience de... ça fait à nous deux, ça fait tous les deux, ça fait plus que 10 ans qu'on investit dans plus, tous les deux, on investit dans plusieurs pays, plusieurs zones, dans des villes pas chères, dans des villes super chères. Tous les deux, on a des biens à plus de 10 000 euros du mètre carré qu'on a ou qu'on a eu, qu'on a revendu. Et tous les deux, on a acheté des biens à moins de 1 000 euros le mètre carré. Donc voilà, on connaît assez bien les différentes phases, les différents secteurs. Et puis ça fait, on accompagne des investisseurs depuis maintenant 4 ans. Ils ont tous trouvé des biens. Et d'ailleurs, je vais féliciter Valentin parce qu'il m'a écrit juste avant. Franchement, il m'a écrit il y a moins d'une heure. Il m'a dit « J'espère que vous allez bien. » Donc, on l'a aidé. Et puis, en fait, l'idée, nous, quand on coach les gens, c'est de leur apprendre à investir. Ils achètent avec nous un bien, deux biens, trois biens, quatre biens, cinq biens, autant qu'ils veulent. Et puis après, ils volent leurs propres ailes. Et il dit « Voilà, du coup, je vais voler mes propres ailes. Toi, Michel et Clef, vous m'avez été d'une grande aide. Je n'aurais jamais sauté le pas sans vous, même si je suis encore débutant en niveau. Maintenant, je pense que je peux continuer sans accompagnement. C'est exactement le but. D'abord, lancer, apprendre à pêcher, comme on dit. Et ensuite, que les personnes volent leurs propres ailes. Et du coup, on fait le webinaire. Donc, prenez en note, c'est le dimanche 31 à 20h30, on vous expliquera 3 secrets que vous n'avez jamais entendus sur YouTube, sur nulle part, sur comment on gagne vraiment de l'argent en immobilier. Et ça passe par, c'est pas vraiment la phase d'achat d'un bien atypique, un IDR ou que sais-je. On va vous expliquer vraiment concrètement comment l'argent rentre sur votre compte. En fait, c'est vraiment ça, et comment il rentre souvent, beaucoup et régulièrement. Donc voilà, 3 secrets l'investissement que les investisseurs immobiliers. Que 95% des investisseurs immobiliers découvrent trop tard. Lien dans la description, ou alors vous allez sur grosbillet.com/webinaire, grosbillet.com/webinaire. Et dessus, vous pouvez vous inscrire. Voilà, ne traînez pas, je vous ai dit, c'est limité à 200 personnes. Il y en a déjà pas mal d'inscrits. C'est à 20h30, comme ça, les enfants sont couchés. Normalement, vous avez fait tout ce que vous avez à faire parce que c'est la fin du week-end. On a vraiment essayé de trouver le meilleur créneau qui vous arrange le plus. Donc, ça se passe. Et bien sûr, en plus, il y aura bien sûr des bonus et tout ça pour les participants. On vous expliquera tout ça dans le webinaire, 20h30, lien dans la description. Ok, on attaque avec les fausses croyances, les 10 plus grosses fausses croyances en immobilier et pourquoi elles vous coûtent des gros billets et surtout du temps. C'est ce qu'on va voir. Donc, bien sûr, chacun a une situation différente. L'épisode de la semaine dernière avec William, où il avait des revenus limités, ça va pas être le même que avec quelqu'un qui a des revenus plus élevés. Donc, il y a plusieurs stratégies. Il y a aussi le temps que vous avez. Est-ce que vous avez une famille ou non? Est-ce que vous habitez sur place? Tout ça, on va voir ensemble. Je vais vous donner mon avis, mes expériences et puis aussi celles des personnes qu'on a pu coacher ou des gens que j'ai pu rencontrer via le podcast, via les événements IMO, etc. Premier mythe. Alors, du coup, je les ai classés en 1, 2, 3, 4, 5 mythes. Mythes travaux, mythes acquisition, mythes financiers, mythes location, exploitation et mythes mindset, stratégie. On attaque du coup mythe numéro 1. Il faut toujours faire beaucoup de travaux pour gagner de l'argent. Alors ça, c'est le plus gros mythe, le plus gros problème. Je vais vous donner des exemples de biens sans travaux. J'ai acheté, il y a 2 biens que j'ai vendus. Accrochez-vous. Les 2 plus grosses plus-values que j'ai fait, je pense, c'était des biens sans travaux, juste bien achetés. Ces 2 biens que, qui m'ont fait gagner, accrochez-vous, chacun 5000 euros par mois de plus-value pendant la durée de détention. 5000 euros par mois pendant la durée de détention, chacun. Et c'est des biens sans travaux. C'est juste que j'avais bien acheté au bon endroit. J'avais fait beaucoup de visites. C'est toujours, en fait, moi, ma stratégie, c'est toujours de beaucoup visiter. Très souvent négocier. D'ailleurs, j'ai formation sur le sujet. Mais négocier. Mais sinon, voilà, des plus-values à chiffres sans travaux. J'en ai fait. J'en ai fait sur le court terme, sur le long terme. Donc, voilà, les travaux, pas toujours la peine. Des biens à renta, pour vous dire là, les trois derniers biens qu'on a achetés, on a fait, dans un bien, on a fait 5000 euros de travaux. Un bien, on a fait zéro travaux, il est loué. On l'a super bien acheté, 10% de renta. Un autre bien, on a fait 5000 euros de travaux. On l'a acheté 110 000. On le loue 900 hors charge. Donc, on est quasiment à 10% de renta. Et un autre, on l'a acheté 81 000. On a fait, je crois, aussi, je sais plus, c'est 3 000, 5 000 de travaux. Et on loue, je crois que c'est 700 hors charge. Donc, voilà. Ça se trouve. Et peut-être, non, c'est 650 hors charge. Voilà. Donc, vous voyez les rentas qu'on peut avoir. Mais pour avoir acheté ces trois biens, j'ai épluché peut-être 200, 300 annonces. J'ai fait peut-être 20 visites. Mais faire 20 visites, c'est beaucoup plus rapide que retaper tout un appartement. Après, ça dépend des zones. Ça dépend forcément de ce que vous voulez faire. Mais dans la même ville, j'ai un ami, par exemple, qui a des dizaines de lots. Et lui, il achète toujours des immeubles qui sont délaissés. Il refait tout. Et franchement, il s'en sort, ses apparts finis, ils coûtent plus cher que ceux que j'ai achetés bien souvent. Donc voilà, après, il a la maîtrise de tout l'immeuble et tout. C'est ses stratégies, il fait lui-même les travaux aussi en partie. Donc ça peut être une stratégie, mais pour moi, surtout dans les villes pas chères, je dirais à moins de 3000 euros le mètre carré, tu t'y retrouves pas. Si tu changes les fenêtres, si tu commences à faire des gros travaux, tu peux tomber à 50% du prix du bien en travaux et après... tu le retrouves pas. Donc ça, c'est vraiment le plus gros mythe. Et ça, c'est vraiment tous les coachés qu'on a. Ils veulent que acheter des poubelles au début. Enfin, pas tous, mais beaucoup. Et tout refaire. Et aussi faire en mode, je veux que ce soit fier et que je sois fier quand je rentre dedans. Que je puisse habiter dedans, que je puisse envoyer ma mère dedans. En général, c'est pas des bons plans financiers. C'est sûr qu'après, c'est vendeur. Quand tu montres un avant-après sur Instagram, sans parler de tous les coûts, quiconque a déjà vu les trucs de homestaging sur M6, ils oublient comme par hasard la main-d'œuvre. Ils disent, oui, alors les travaux qu'on a fait, c'était que moins de 2% du prix de vente. Ouais, ils ont juste oublié qu'il y a des ouvriers pendant 3 semaines pour faire les travaux. Donc voilà. Les travaux, on connaît. Michel, il est mon associé, il est compagnon. Enfin, il a été compagnon, plombier chauffagiste. Il a la double casquette plombier chauffagiste école de commerce ils doivent pas être 5 en France à avoir cette double casquette. Mais en tout cas, voilà, les travaux, c'est vraiment le plus gros mythe. Je vois des gens, ils avancent pas dans leurs travaux 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Difficile à faire financer quand il y a trop de travaux. Et puis après, toutes les histoires cata que j'ai eues sur le podcast, j'ai eu Alexia Story Travaux, des travaux qui sont complètement envolés en centaines de milliers d'euros. J'ai aussi Christelle, qui je sais plus combien, elle a une douzaine de lots, je crois, sur les bras qui sont pas finis. Voilà, les travaux, pour moi, c'est vraiment pas le bon plan. Faire des rafraîchissements, changer les murs, les sols, refaire une salle de bain et une cuisine, pourquoi pas, mais ça s'arrête là. Je pense qu'on a changé le nombre de fenêtres qu'on a changé, ça se compte sur le doigt d'une main en 10 ans d'investissement immobilier. Mythe numéro 2, alors j'espère que vous n'entendrez pas, il y a les cloches de l'église juste à côté qui sont mises en marche. Mais normalement, avec le micro que j'ai, ça filtre quand même pas mal le son. C'est dimanche matin, je travaille tous les jours, soit je suis en vacances, soit je travaille. Donc, mythe numéro 2, faire les travaux soi-même, c'est la meilleure façon d'économiser. Donc ça, je recommande pas du tout. Alors, à la limite, pour apprendre au début, pourquoi pas. Si on a du temps, pourquoi pas. Si on a une famille, des enfants, un métier bien payé. Si on fait du sport ou que sais-je. Franchement, en plus, il y en a qui se blessent. quand ils font ça, moi en tout cas, j'ai jamais fait de travaux et j'ai jamais regretté de pas les avoir fait. Donc on peut économiser. Le problème c'est qu'on déduit pas des impôts ces travaux. Après, vous allez souvent, on met trois fois le temps qu'un artisan ferait. On a l'impression que, par exemple, un point que parfois je fais des tout petits trucs et ce dont je me rends compte, c'est le temps que ça prend de faire les achats. C'est acheter le matériel, c'est un truc de fou. En plus, il nous manque toujours quelque chose et tout si on n'est pas habitué à le faire. Donc voilà. Puis la qualité, franchement, moi quand je vais dans des appartements qui ont été refaits par le propriétaire, très souvent je trouve que ça se voit, les finitions elles sont pas, c'est pas super et tout. Donc voilà. Nous on a là les trois derniers appartements qu'on a achetés, il y en a un cette année on a été 0 minute et les deux autres, allez en tout et pour tout avec les petits rafraîchissements, les visites, peut-être 5 heures en tout. Dans les appartements et ils tournent, ils sont loués. Voilà. Parfois, on a des petits différés de crédit. Pendant ce temps, on prend le cash et tout. Donc, faire les travaux soi-même, sauf si on est vraiment pro, je trouve que ça vaut pas le coup. Si on a déjà le matos et tout, pourquoi pas. Mais sinon, moi, je trouve que c'est trop long. Et toutes les personnes qui ont essayé, parce que nous, les coachés, on en a souvent, les personnes qu'on accompagne au Club Invest, qui veulent le faire. On les met en garde et à la fin, ils nous disent tout le temps qu'ils ont bien appris, mais qu'au final, on avait quand même raison. Donc voilà, faire les travaux soi-même, je ne recommande pas du tout. Surtout si votre objectif, en fait, c'est d'augmenter votre patrimoine. Si en gros, vous n'avez que les moyens d'acheter un bien, et ça, de toute façon, on sait qu'on a les moyens d'acheter un bien que quand on s'est pris 30 râteaux sur le deuxième bien. Mais sinon, on perd trop de temps. Son temps, il est mieux utilisé à trouver d'autres biens, je trouve, et à faire beaucoup de recherches qu'à refaire les travaux. Il y avait Yanni aussi, c'était un membre du club, il avait refait une salle de bain, j'avais dit « Ah ouais, super le résultat !» Il m'avait dit, il l'avait fait, c'était là où il habitait, mais il avait mis des mois, carrément des mois à refaire la salle de bain. Voilà, parfois, vaut mieux envoyer quelqu'un, en quelques jours, c'est fait. Et puis, ce sera mieux fait. Et en plus, vous participez à l'économie de votre pays. Donc, voilà. Donc, deuxième mythe, faire les travaux soi-même, c'est la meilleure façon d'économiser. Réponse est non. Pareil pour le ménage. Hein. Le ménage, vous pouvez déduire. Même si si je peux vous donner un très bon conseil, j'en parlais hier avec un ami qui vient d'avoir un deuxième enfant. Il n'a pas de femme de ménage. Je lui dis, mais comment c'est possible? Tu peux tout déduire et tout. Tu as deux enfants. Quand on sait combien ça coûte une séparation et qu'il y a beaucoup de séparations qui sont à cause des tâches ménagères, c'est beaucoup trop risqué de ne pas avoir de personne qui fait le ménage chez vous. Donc, on attaque mythe acquisition. Alors, donc là, on a fait mythe travaux. Le 1, je vous rappelle, il faut toujours faire beaucoup de travaux pour gagner de l'argent. C'est faux. Deuxième, faire des travaux soi-même, c'est la meilleure façon d'économiser. C'est faux. Selon moi, bien sûr, mais c'est moi qui détiens la vérité ici. Sinon, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Vous n'entendez personne d'autre. Donc, c'est moi qui ai la vérité pour aujourd'hui, en tout cas. Les mythes acquisition. Acheter en direct sans agent, c'est toujours mieux. Alors là, c'est ça qui me fait péter un plomb, en fait, quand j'essaye de joindre les agents immobiliers, c'est qu'ils ont trop peur qu'on passe en direct. Sauf que moi, j'ai aucun intérêt à passer en direct. Pareil, si vous avez déjà vu les émissions d'M6, avec maison à vendre et tout, on voit toujours que les particuliers abusent sur les prix. Et donc, franchement, acheter avec agence, je le dis, c'est dans un des modules de ma formation, c'est comment gérer l'agent immobilier. Et je dis très souvent que quasiment tous les biens que j'ai achetés, les meilleurs négos, c'est avec agence. Je crois que j'ai acheté que 2 ou 3 biens avec des particuliers. Et en plus, c'est souvent des biens dans lesquels j'ai eu quelques petits problèmes, mais bon, pas très important, mais quand même. Donc, acheter sans agence, c'est toujours mieux. Les frais d'agence, ils sont impactés sur le net vendeur. Vous, si vous êtes acheteur, ça vous impacte pas. Vous êtes face à un marché où tout le monde est en concurrence. Donc, les frais d'agence, ça vous impacte pas ou très peu. Donc, acheter sans agence, c'est pour moi une mauvaise idée. Les gens sont mal organisés. Il y a des trucs, il peut y avoir voilà, je dis pas que tous les agents sont pros, mais on va dire que c'est quand même une meilleure source de garantie de la fiabilité des informations données que si c'est un particulier qui vend lui-même. Et je trouve que c'est plus simple de négocier avec une agence qui fait l'intermédiaire, qui en plus, elle a une incitation à ce que le deal se fasse pour toucher sa commission, qu'avec un particulier. Voilà. Alors qu'à l'inverse, moi, j'ai souvent acheté et revendu des voitures. Et là, en fait, pour les voitures, bah, je préfère acheter à des particuliers pour voir la tête du particulier, ce qu'il a fait, il connaît la voiture, etc. Pour les biens immobiliers, je préfère largement acheter via une agence. On attaque le quatrième mythe que je vous ai préparé. L'essentiel, c'est de trouver le bien. Alors ça, c'est vrai et c'est faux. Alors je trouve que ça fait une très grosse partie du boulot. En effet, c'est de trouver le bien. Mais après, bah, il va falloir le faire financer. Donc trouver un bien rentable, ça peut se trouver. Mais il faut beaucoup chercher. Par contre, il faut le faire financer. Donc il y a des personnes qui vont avoir plus de mal en fonction des régions dans lesquelles elles se trouvent à trouver des biens rentables. Et de l'autre côté, il y en a qui auront plus de mal à se faire financer de par leur statut. Et notamment, contrairement à ce qu'on pense, peut-être, quand on commence, c'est beaucoup plus simple, hein, de se faire financer. Le 0 à 3 biens, il est beaucoup plus simple que le 3 à 7. Et le 7, et de 7 à 10, c'est encore plus dur. Et après, au bout d'un moment, je pense que ça se stabilise. Mais voilà, on ne peut pas non plus faire comme on veut au niveau du financement. Donc, il y a des personnes pour qui trouver le bien, c'est vraiment le plus important. Et pour d'autres, ça va être plutôt trouver le financement. Et du coup, on peut passer au mythe numéro 5, la nouvelle catégorie, troisième catégorie, les mythes financiers. Donc, on a fait les mythes travaux, les mythes acquisition, donc acheter sans agence et trouver le bien. Mythe numéro 5, le mythe financier. Donc moi, clairement, pour en revenir, pardon, à mythe acquisition, donc là, je vous ai parlé des biens que j'ai achetés sans agence très peu et trouvé voilà, le financement. Parfois, avec Michel, on a pu faire surtout au début une dizaine de banques. Et vu qu'on n'était pas de la même famille et pas en couple, ça nous a vachement compliqué la tâche. Et puis moi, bah, je suis non-résident. Entre-temps, lui est devenu aussi non-résident. Donc, c'est un peu compliqué, mais on a quand même réussi à acheter encore ben, trois biens cette année. Et moi, j'en avais acheté deux l'an dernier, dont un bien cash. Donc là, c'était plus simple. Donc voilà. Mythe financier, donc numéro 5. Le risque principal, c'est le locataire qui ne paye pas. Alors, ça, c'est vrai et c'est faux. Il faut toujours tout mettre en perspective. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est d'acheter sous le prix du marché ou au moins d'acheter au prix du marché, selon moi. Parce que là, on peut très vite, ça dépend des zones, mais sur un bien à 100 000 euros, on peut acheter 10, 20 000 euros trop cher. Sur un bien à 300, 400, on peut acheter 100 000 euros trop cher. Donc, même si là, un locataire paye pas, si on a payé le bien trop cher, c'est ça qui va le plus impacter. Idem, ce qui peut coûter, enfin, ce qu'il faut vraiment tenir compte, c'est les taxes foncières qui vont encore augmenter cette année. J'ai vu un truc comme 5%. C'est complètement fou. Ça peut être aussi l'exploitation. Si vous avez prévu de faire de la courte durée, que c'est interdit dans la copro ou dans la commune ou que ça le devient, ça peut être aussi un gros problème. Donc voilà. Le locataire qui ne paye pas, ce qui est bien, c'est que maintenant on peut s'assurer, garantie visale, garantie loyer impayé. Pour une garantie loyer impayé, vous pouvez d'ailleurs aller chez Kenny de ma part, vous aurez une bonne réduction. Avec le code Bye Bye Patron, j'ai fait un épisode avec Kenny.eu, je crois. Kenny.eu. Voilà, vous aurez une bonne réduction. Mais en tout cas, nous, tous nos biens, ils sont assurés. On prend plus de garant quasiment. Ça peut arriver encore à la marge. Je crois que j'ai peut-être. Je dois avoir un bien avec garant. Je crois que c'est tout. Un bien avec garant. Tous les autres, que des garanties. Donc, en fait, le risque et ce qui coûte cher, c'est par contre si vous détériorez l'appartement et que vous avez une garantie visale, là, ben, vous avez que vos yeux pour pleurer, peut-être 1 000 euros ou 1 500 euros. Mais si c'est une grosse dégradation, ça suffira pas du tout. Et si c'est une petite, ils vous assureront pas. Moi, j'ai dû justifier de 15 000 euros de travaux pour qu'ils veuillent bien me rembourser 900 et quelques euros. Et à la base, ils voulaient me rembourser 17 euros sur les 15 000, donc avec visale. Donc voilà, les risques, c'est payer le bien trop cher, prévoir une exploitation qui n'est pas autorisée. Idem pour la colocation, parfois c'est interdit. Aussi, ça peut être effectivement de prévoir de faire un bien en coloc. Moi, je suis vraiment pas un fan de la colocation parce que je pense que le marché, il est cramé. Et du coup, que vous allez avoir de la difficulté à louer, même dans des villes. Là, j'étais en vacances avec quelqu'un qui a des colocations à Strasbourg. Il les remplit là, on est dans la période août, Mais il a dit qu'il fait très très attention, et même si c'est pas sûr à 100%, mais très très attention à mettre des gens qui vont rester. Donc par exemple, pas des premières années étudiants, parce qu'ils peuvent changer d'avis, des choses comme ça. Donc même dans des villes où le marché il est très tendu comme à Strasbourg, la colocation c'est déjà pas mal saturé. Alors si vous êtes dans des villes de entre 50 et 200 000 habitants, à mon avis c'est déjà trop saturé. Donc voilà, c'est ça pour moi le risque principal, plutôt que le fait que le locataire ne paye pas, parce que ça on peut s'assurer. Deuxième mythe financier, il faut beaucoup d'apports pour être sûr d'avoir son crédit. Plus vous en mettez, plus vous allez avoir de crédit. Mais par exemple, si vous n'avez pas d'emploi, si vous mettez 50% d'apport, eh ben, peut-être qu'on ne vous prêtera quand même pas. Et après, bah, les financements, on en a parlé pendant longtemps, des financements à 110%, moi, j'en ai déjà eu. Ça fait quelques temps. Et puis nous, en général, maintenant, on met 10% du projet, y compris le notaire. Donc, c'est pas sur un projet à 100 000, hors frais de notaire, bah, avec les notaires, c'est 110 000 et puis on met 10 000. En gros, c'est ça. Donc, l'apport, il en faut un peu. Et surtout, il faut que vous ayez de l'argent de côté qui reste. C'est ça le plus important. D'ailleurs, hier, j'étais avec un ami qui n'est pas du tout dans l'immobilier et il regarde pour acheter son premier appartement. Et en fait, il était étonné que le banquier lui dise « Ouais, mais en fait, tu ne peux pas mettre tout ton épargne en apport parce qu'après, sinon, tu n'as plus rien. » Et effectivement, je lui dis « Bah, tu sais... quand tu achètes un appartement, tu as souvent, bah après, il faut que tu meubles. Parfois, tu as des. Très souvent, nous, quand on achète des appartements, c'est pas des gros trucs, mais quand on le remet en exploitation, il y a, par exemple, des problèmes avec des volets, des fenêtres qui ferment mal, peut-être un robinet qui fuit, et des choses comme ça. Et donc, si tu as mis tout ton apport dedans, eh ben, ça peut vite être compliqué. Donc, voilà. Ça, c'est l'apport. Il faut avoir de l'argent de côté un petit peu. Moi, je dirais que vraiment pour commencer, si on n'a rien du tout, pas d'emprunt, pas de bien, faudrait au minimum 7 000 euros, 6-7 000 euros. C'est vraiment le minimum. Plutôt 10 000. Si c'est plus, c'est mieux. Mais si tu as moins de 6-7 000 euros, je pense que la priorité, ça va être quand même de mettre cette somme de côté avec peut-être un side business, en épargnant, gérant tes revenus un peu mieux. Mais voilà, ça, c'est où en mettant... une partie de ta résidence principale en location. Donc ça, c'était le mythe numéro 6. Mythe numéro 7, l'immobilier, ça rapporte toujours. Alors, ça dépend à qui, mais ça peut... c'est pas forcément le cas parce que les marchés peuvent se retourner. Vous pouvez aussi mal acheter. Donc moi, j'ai acheté beaucoup de fins de défiscalisation. D'ailleurs, les deux offres là que j'ai fait, c'est de nouveau sur des fins de défiscalisation. Et souvent, on les a payées à peu près la moitié de ce que les gens l'avaient payé 10-15 ans avant. Alors bien sûr, entre-temps, ils ont touché des loyers, ils ont eu des réductions d'impôts, donc c'est dur de savoir combien c'est au final. Et puis moi, je dis toujours, à la fin, si tu as acheté 100 000 un bien qui avait été acheté 200 000 il y a 20 ans, bah à la fin, celui qui te vend, qui a 70 ans, il a 100 000 sur son compte et toi, tu as 100 000 d'emprunt. Donc, qui est l'idiot entre les deux? Voilà, donc... En tout cas, tous les problèmes de défisc, des immeubles qui ont des problèmes avec des locataires qui ne payent pas des charges de copro, etc., des zones qui se détériorent, vous pouvez quand même perdre de l'argent. C'est pour ça qu'il faut bien acheter dans des bonnes zones, mettre des bons locataires, être dans des copro de qualité. Et puis après, le marché en tant que tel, là, sur toute une ville, vous pouvez un peu sentir la tendance, mais c'est quand même difficile. Si on regarde les prix à Paris, ils n'ont pas bougé depuis 10 ans, je crois. Là où dans d'autres villes, j'étais à Vannes, par exemple. Vannes, ça a explosé. Il y a 10 ans, ça aurait été dur de dire que Vannes allait beaucoup plus monter en pourcentage que Paris, je pense. Donc, ceux qui ont le journal de la veille, enfin qui disent aujourd'hui, oui, c'était sûr, non, c'était pas sûr, sinon tu l'aurais fait. Et voilà, ça c'est... On peut perdre de l'argent, mais la plupart du temps, on en gagne. Quand même, sinon, on ne ferait pas ça et on ne travaille pas pour perdre de l'argent. Ok, on attaque avec la quatrième catégorie. J'ai appelé ça les mythes location-exploitation. Pour rappel, premier mythe, les travaux. Deuxième, acquisition. Troisième, mythe financier. Donc là, on attaque avec la quatrième catégorie, mythe location-exploitation. Alors, les Airbnb ne fonctionnent que dans les grosses villes. Donc pour moi, ça c'est vraiment le constat que j'ai pu faire, c'est que à mon avis l'offre et la demande de Airbnb Globalement, elle s'équilibre selon les zones. Les zones très touristiques vont avoir beaucoup de logements Airbnb et souvent beaucoup de restrictions. Les plus petites zones, plus petites villes, eh ben, moins de restrictions, moins de concurrence. Pour vous dire, moi, j'ai acheté un bien en Airbnb dans une ville dans laquelle personne ne passe ses vacances, c'est sûr et certain. Et du coup, je l'ai acheté 59 000 euros. Et l'an dernier, il a fait 12 000 euros de chiffre d'affaires en ménage. Donc, c'est quand même un bon achat. Et j'avais exprès, je m'étais dit, bah, je vais me mettre dans une zone pas très touristique. Mais par exemple, il est très proche de l'autoroute. Je me suis dit, il y a des gens, ils vont faire des stops là-bas. Et bah, ça marche plutôt bien. Donc voilà, c'est de l'ordre de 1 000 euros par mois. Bien sûr, si on a des biens bien placés dans des grandes villes, on peut, et qui sont grands, on peut faire plus. Mais moi, qui ai l'habitude de voyager, je voyage à peu près 3 mois par an. Pour vous donner un ordre d'idée, alors ça dépend des gens, bien sûr. Mais moi, j'ai l'habitude de payer une chambre, enfin un hébergement, globalement autour de 100 euros la nuit. Donc, et ça, où que je sois. Donc là, j'ai été, par exemple, j'ai été en Floride cette année, à Dubaï, en Bretagne. Voilà, globalement, je paye plus ou moins. Après, parfois, si je veux un peu plus profiter ou quoi, je peux monter à 200. Mais globalement, je paye aux alentours de 100 euros la nuit. Là, je vais en Chine, par exemple. Je vais payer beaucoup moins cher pour des biens qui ont l'air incroyables. Enfin, en tout cas, sur les photos, parce que je vais payer 50 ou 100 euros, je les paierai au moins 500 dans le reste du monde, quoi. Donc, on va voir à quoi ça ressemble. J'ai hâte quand même de faire la comparaison photo, hébergement réel. Mais en tout cas, donc, c'est si vous avez un petit bien, enfin, je veux dire, à part si vous êtes par exemple en Norvège peut-être en Islande où j'ai été aussi, où ça peut être vraiment cher. Franchement, même à Paris, on trouve des biens à 100 euros la nuit. Donc, effectivement, si vous avez des plus gros logements, vraiment plus premium et tout, mais à quel prix vous allez payer pour les rentabiliser? Donc, on peut faire, bien sûr, plus que 1 000 euros par mois en Airbnb, mais voilà, regardez toujours combien les gens ils sont prêts à payer. Et généralement, en tout cas en France, les gens, ils payent, en tout cas quand ils sont deux, entre 60 et 150 la nuit, quoi, selon les endroits et puis les périodes. Donc, voilà, c'est pas que dans les grandes villes. Et dans les grandes villes, il y a tous les problèmes qu'on connaît, hein, les restrictions, les taxes de séjour qui explosent, les taxes d'habitation, à présent, taxes d'habitation majorées. Donc, voilà, tout ça fait que c'est pas forcément le meilleur plan de vouloir investir dans un Airbnb dans une grande ville. Je ferai pas... on en parlera rapidement dans le webinaire, là, tous les trucs, tiny house, logement atypique, les bateaux, là, franchement, moi, je suis pas du tout pour. Enfin, c'est pas que je suis pas pour ou quoi, mais c'est pas du tout une solution miracle. Je pense que ça a tendance à se détériorer, s'user dans le temps. Là, j'étais encore hier dans un appartement que j'ai acheté en 2019. Franchement, ça s'use beaucoup. Il faut repasser dedans, il faut refaire des trucs, il faut moderniser. Donc, quand on prend des emprunts de 20 ans pour une sorte de camping-car sur un bateau, ça me paraît peu judicieux. Voilà, donc en tout cas, tout ça pour dire, les Airbnb, ben, ça peut fonctionner partout parce que selon moi, l'offre de logement et la demande s'équilibrent plus ou moins et les prix, mine de rien, ben, en France, on va avoir du mal à trouver un Airbnb à moins de 70 euros qui est correct. Et voilà, dans presque tous les endroits, même à Paris, on peut trouver des Airbnb, on va dire, à 150, donc peut-être un rapport de 1 à 2, là où l'immobilier, il va peut-être être de 1 à 10. Donc, dans les villes pas chères, on peut payer aux alentours de 1000 et quelques euros le mètre carré, à Paris, 10 000. Donc, voilà, être dans les grandes villes, c'est pas forcément le meilleur plan pour la courte durée. Un bon locataire, c'est un locataire qui reste longtemps. Donc ça, c'est le mythe numéro 9. Alors, ça peut être le cas, mais en fait, tout dépend de dans quel état il vous rend l'appartement. C'est ça, pour moi, le plus important, dans quel état il rend l'appartement. Donc, un bon locataire, pour moi, c'est un locataire qui ne m'appelle jamais, ça, c'est sûr. Mais même s'il ne reste pas si longtemps, qu'il sort, par exemple, en juillet-août, après, j'arrive à relouer facilement. Et que parfois, il y en a... moi, j'ai eu déjà une locataire, elle m'a posé du papier peint, franchement, super beau, dans un appartement qui était, avant le propriétaire, c'était un homme seul. Et du coup, c'est vrai qu'il avait eu des goûts... discutable en décoration. On peut dire ce qu'on veut sur les hommes et les femmes en général, les femmes, elles, pas toutes les femmes, bien sûr, mais souvent les femmes, elles ont des bonnes idées de décoration et parfois les hommes, ils font un peu des. Là, il y avait des murs violets, un peu des trucs qui leur plaisent à eux, mais qui ne plairaient pas à tout le monde. Et donc, par exemple, j'ai eu une locataire, je dirais que c'est une bonne locataire. Alors, elle m'avait un peu appelé et tout, mais elle était bien rigoureuse. Elle m'a payé dans les temps. Elle a tapissé du coup l'appartement avec son père qui était un professionnel du bâtiment, super beau. Elle avait nettoyé l'appartement bien plus que ce que je lui avais donné à la base, donc vraiment top. Donc voilà ce que je peux. Donc un bon locataire, est-ce que c'est un bon locataire qui reste longtemps? Pas forcément, parce qu'en plus les loyers peuvent évoluer et tout. Mais en tout cas, c'est un locataire qui vous demande le moins de travail possible, tout simplement. Donc c'est-à-dire paiement par virement tous les mois automatique, qui vous rend l'appartement en bon état. Et qui vous prévient un temps, par exemple, quand il va partir, pour que vous puissiez le relouer. Donc, ça, c'est les mythes exploitation. Et du coup, on attaque la dernière catégorie, c'est les mythes mindset stratégie. Le premier qui est assez connu, c'est il faut être riche pour investir en immobilier. Je dirais que c'est faux, globalement. Tout le monde peut investir, hein, globalement, à condition d'avoir des revenus stables. Là, par exemple, Valentin, là, dont je vous ai cité avant, c'est pas un secret, il était intérimaire, enfin, il est intérimaire dans une bonne industrie, il gagne bien sa vie, mais il est intérimaire et il a pu quand même acheter, là, il était au club, il a acheté deux biens. Donc, voilà, en étant intérimaire, j'ai même eu des personnes, sur le podcast, je crois, intermittent du spectacle, même au chômage, mais bon, là, ils avaient des parents derrière qui se portaient garant. Donc, en fait, c'est pas vraiment être riche. L'important, c'est avoir un peu d'épargne. Comme je vous l'ai dit, minimum 6-7 000 euros, mais vraiment minimum. Avoir des revenus stables. Et le moins de crédit que vous avez, le mieux c'est. Mais en gros, c'est pas réservé aux riches. Et quitter son emploi grâce à l'immobilier, on va en parler dans le tout dernier point, c'est plus simple si on gagne peu. Globalement, c'est ça le résultat qu'on peut avoir. Donc, c'est pas réservé du tout aux riches, mais par contre, il faut savoir tenir ses finances, ça c'est sûr. Le point où c'est trop tard pour investir, les prix sont trop hauts. Ça, c'est en fait, c'est toujours difficile à dire parce que il y a des choses qui sont plus chères que d'autres, il y a des choses qui sont moins chères que d'autres. Pour vous raconter, je vais vous raconter un peu. J'ai ma grand-mère qui a 93 ans, et elle m'a montré les factures, elle a toutes les grosses factures de sa vie, et j'ai vu les prix, par exemple qu'elle avait payé un lit, mais c'était de la folie, enfin avant qu'il y ait Ikea et tout ça, les prix, je crois qu'elle avait payé un lit, c'était 20 000 francs, donc 3 000 euros, mais au taux de conversion d'aujourd'hui, et c'était il y a 30 ans, il y a des choses, voilà, les canapés et tout, elle a payé ça hyper cher. Et même l'immobilier, alors ça dépend des zones. Si on regarde forcément les zones qui ont vraiment explosé, avant c'était moins cher, mais maintenant on a plein de points, plein de choses qui sont bien. On a par exemple les assurances loyers impayés qui n'existaient pas avant. On a le Bon Coin, beaucoup plus simple pour trouver des biens. Avant il fallait passer par une agence pour trouver des locataires. Avant il fallait passer par une agence. Donc voilà. Est-ce que avant on trouvait du cash flow plus facilement? Peut-être. Maintenant aussi, les loyers, depuis qu'il y a l'inflation qui a repris, les loyers, ils ont pas mal augmenté. Donc, on retrouve du cash flow. Et puis, de toute façon, l'argent en immobilier, il se fait clairement à la revente. Donc, tout dépend combien vous allez revendre. Les prix, ça fait des années qu'on dit qu'ils sont hauts. Est-ce qu'un jour, ils vont baisser? Là, ils ont un petit peu baissé quand les taux d'intérêt ont augmenté dans certaines régions. Voilà, nous, l'avantage de l'immobilier, c'est qu'au pire, on garde et on loue. Et puis, si ça a vraiment pris, parfois, moi, ça m'est arrivé des biens que je n'avais pas prévu de vendre. Ils ont tellement explosé sur ce marché que j'ai vendu. Voilà. Donc, est-ce que c'est trop? Personne ne le sait. Il n'y a pas de Madame Irma. Ça ne sert à rien d'écouter. Si vous regardez la bourse qui est le sujet le plus suivi avec des gens super brillants, avec des super puissances de calcul et tout, ça fait des années qu'on dit que la bourse, elle est trop haute, mais elle continue de monter. Un jour, est-ce qu'elle va cracher? Oui. Est-ce que du coup, les gens ils vont dire, je vous l'avais bien dit? Oui, peut-être. Mais la bourse, déjà, c'est beaucoup plus volatile que l'immobilier. Et après, pour l'instant, ça a toujours fini par remonter. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose d'attendre que l'immobilier baisse? Je crois pas. Est-ce que ça va arriver? J'en sais rien. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il y aura toujours des gens qui devront se loger. Et donc, et aussi que les euros, globalement, quand on est investisseur immobilier, ben, le gros point positif, c'est que nos mensualités, elles sont fixes, alors que ben, l'euro, entre guillemets, il perd de sa valeur avec notamment l'émission de masse monétaire qui est importante. Et donc, l'argent, il vaut de moins en moins. Enfin, 500 euros d'aujourd'hui, c'est moins que 500 euros d'il y a 10 ans. Donc, vous avez des mensualités qui sont fixes et des loyers qui vont augmenter en valeur absolue, en tout cas. Et donc, voilà. Quand le cash flow, même si on ne l'a pas tout de suite, bah, soit on a bien acheté, on peut en vendre, soit les loyers, ils ont tendance à augmenter. Donc, on finit par en profiter. Et dans tous les cas, bah, les loyers remboursent. C'est quand même magique d'acheter des biens qu'on ne paye pas. Voilà. Est-ce que le marché est trop haut? C'est, posez-vous la question. OK, bah, c'est la même chose. Il y a plein de gens qui me disent en bourse, ça fait 2-3 ans, oui, le marché il est trop haut, j'attends un creux et tout. Bah, t'attends quel creux en fait? Parce que par exemple, début janvier, en bourse, il y a eu un énorme crash avec l'annonce des tarifs. Enfin, un énorme crash, ça a quand même vraiment bien baissé. Et il y a plein de gens qui ne sont quand même pas rentrés. Donc, c'est à la question qu'il faut se poser aussi en immobilier. Là, on a eu une grosse hausse des taux. Franchement, je l'ai dit au moins 10 fois dans le podcast. Pour moi, c'était vraiment une période bénie pour acheter de l'immobilier parce qu'on pouvait négocier, il y avait beaucoup moins de monde. Là, c'est les taux, ils ont commencé à baisser. Il y a plus de monde, on le voit. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup moins de monde qu'en 2022, avant que les taux augmentent et qu'on avait des taux à moins de 2%. Donc, voilà, à mon avis, il n'y a pas de moment parfait. La seule question, c'est combien j'achète par rapport au prix du marché actuel. C'est la seule tendance qu'on peut avoir. Tout le reste, à mon avis, c'est un peu voilà, c'est de l'astrologie. C'est pas la peine d'essayer d'attendre. Attendre quoi? Attendre combien? Et si vous dites que c'est trop cher, eh ben, essayez de vous fixer un OK, ben, je suis d'accord d'acheter si ça baisse de quoi? De 20%, 30%, 40%. Et après, ben, vous dites OK, est-ce que c'est vraiment réaliste? Est-ce que ça va vraiment arriver selon moi? Et après, quand ça arrive, est-ce que vous seriez prêt? Par exemple, si le marché il a perdu 20%, est-ce que vous êtes vraiment prêt du coup à acheter en sachant que le marché vient de baisser? Donc voilà, et qu'on se dit ah, bah, peut-être qu'il va continuer à baisser. Donc voilà, est-ce que c'est trop tard pour acheter? Moi en tout cas, je continue à acheter, je continue à visiter. Et bah, en bourse, on parle souvent de DCA, donc Dollar Cost Average. Donc, en gros, on rentre au fur et à mesure et comme ça, bah, ça étale. Quand le marché il est bas, on achète plus d'actions. Quand le marché il est haut, bah, on en achète moins, mais après ça le dit, comme ça la performance. Et bah, en fait, moi, c'est ce que j'essaie un peu de faire aussi en immobilier, en achetant toujours des biens. Et comme ça, bah, si un jour ça continue d'augmenter, bah, tous les biens que j'ai, tant mieux, ils auront pris de la valeur. Si ça baisse, et bah, je les achèterai moins cher et puis un jour, peut-être que ça réaugmentera. Voilà, ce qui est sûr, c'est que tous mes biens, ils se payent tout seuls. Donc, à la fin, j'aurais payé que les apports. Et bah, franchement, c'est quand même pas mal de pouvoir acheter avec 10 000 euros des biens à 100 000 euros. Et bah, on l'a fait plusieurs dizaines de fois. Donc, voilà. Est-ce que c'est trop cher? J'en sais rien. Est-ce que quelqu'un sait si c'est trop cher? Non. Il faut, 12e mythe, j'ai mis, c'est il faut acheter là où on habite. Alors ça, c'est pas forcément un mauvais mythe. C'est si tu connais le marché et que c'est un marché pas cher, dans le sens moins de 2500 euros le mètre carré, franchement, c'est bien d'acheter là où on habite. Si pour trouver un emploi, comme c'est le cas pour beaucoup, tel dans une ville chère, et que du coup, il n'y a pas... Bon, parce que du coup, quand t'es proche, bah, tu connais mieux, tu prends moins de risques, tu vas pas acheter dans une rue qui craint, une copro qui craint, une cité, que sais-je. Tu peux aller gérer tes chantiers de façon beaucoup plus simple. Les mises en location, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est plus simple, oui. Mais après, si t'es dans une ville qui est chère, plus que 2500 euros le mètre carré, eh ben, t'auras pas de renta. Et du coup, t'es obligé d'aller plus loin. Donc, ça se fait tout à fait. Moi, j'ai plein de biens à plus que 300 km de chez moi. Et ça se fait, j'ai des gens sur place, j'y vais de temps en temps. Le seul problème, en fait, c'est visiter. Tout le reste, tu peux déléguer, mais après, il faut bien visiter les biens. Ça, je trouve que c'est risqué quand même de déléguer les visites. Donc, voilà. Ça, c'est pas vraiment, c'est le seul faux mythe, je dirais. Si, ou en tout cas, on peut discuter. Si t'habites dans une ville pas très chère, reste dans ton coin pour l'instant, en tout cas au début. Si t'habites dans une ville chère, bah, va falloir bouger. Peut-être là d'où tes parents sont originaires, là où tu as étudié, là d'où ta compagne est originaire. Il y a plein de solutions. Et après, ben, on peut déléguer pas mal de choses sur place. Si ce n'est, pour moi, il faut quand même aller visiter. Et le 13e, voilà, on va dire que ça va porter chance, les 13, pour cet épisode, c'est est-ce qu'on peut dire bye bye patron grâce à l'immobilier? Et là, c'est pareil, ça va être une réponse de Normand, oui et non. Donc oui, c'est tout à fait possible. Déjà, on peut alléger sa charge de travail comme on l'a expliqué avec William dans la semaine dernière. J'ai eu plein de personnes sur le podcast qui ont arrêté de travailler grâce à l'immobilier. Nico Labat, par exemple. J'ai plein de gens que je connais très proches qui ont arrêté, notamment grâce à la courte durée. Ce que je vois, c'est que les personnes qui ont arrêté de travailler grâce à l'immobilier, c'est des personnes qui gagnaient des salaires moyens, voire faibles, c'est-à-dire moins de 2500 euros. Globalement, parce qu'en fait, ça, on peut assez facilement le remplacer en immobilier. Alors que quand on gagne plus que ça, eh ben, je trouve que c'est compliqué. Après, on a par exemple Kevin. Et en fait, par contre, donc, est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que c'est possible en longue durée? Franchement, en longue durée, si on a 200 euros de cash flow sur un bien, c'est pas mal. Franchement, une fois qu'on a tout payé, 200 euros, c'est vraiment pas mal. Donc, il faudrait, pour quitter, je dirais, il faudrait 4000 euros de cash flow. Donc, ça fait 20 biens. Donc, c'est quand même voilà, du boulot à crédit. Après, si vous achetez des biens cash, là, c'est différent. Mais à crédit, voilà, il faut, à mon avis, une vingtaine de biens avec des bons cash flows, des 10% de renta. Mais par contre, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire plein d'autres choses. Souvent, en fait, l'immobilier, c'est un premier pas dans des gens qui veulent ensuite entreprendre. Et là, on a Kevin, d'ailleurs, il sera dans le webinaire. C'était un de nos premiers membres. Il avait zéro bien. Et puis, il en a acheté 1, 2, 3, 4, 5. De là, il a ouvert une conciergerie parce qu'il avait ses biens, notamment en courte durée, conciergerie. Et là, je l'ai au téléphone il y a peut-être 2 semaines. Il a, donc lui, il est plus dans le club parce que c'était un de nos premiers membres. Mais voilà, nous, on aime bien, vu qu'on accompagne les gens en one-to-one, on a des interactions directes avec elles. C'est pas un coach qui prend le relais ou quoi, c'est soit Michel, soit moi. Et du coup, après, on les suit, on se rappelle des gens, bien sûr. On en a eu que peut-être entre 40 et 50 en 4 ans. Et donc, bah, et puis souvent, bah, je dis aux gens de donner des nouvelles, ça nous fait trop plaisir de voir leur évolution. Et Kevin, bah, ça a été tout au tout. Vous allez le voir si vous venez au webinaire. Et bien sûr, inscrivez-vous au webinaire, il y a le lien dans la description. Voilà, là, il a lancé une activité entrepreneuriale. En plus, donc, il avait, lui, il était salarié normal, puis il avait commencé à tourner en rond. 5 biens depuis qu'il nous a rejoint, lancé la conciergerie depuis qu'il nous avait rejoint en Club Invest. Et là, il a lancé sa société en plus. Et il va pouvoir, ce qu'il voulait, lui, c'était devenir digital nomade. Bah là, il s'en rapproche hein, très fortement. Donc, voilà, c'est pas juste ces 5 biens qui ont fait quitter son métier. Mais déjà, je pense que juste avec les 5 biens, il aurait pu quitter. Mais voilà, là, on est dans la section où j'ai mis mindset. Et ben c'est grâce à l'immobilier, en fait, ça l'a ouvert à plein d'autres choses. C'est comme moi, voilà, via le podcast et tout ça, j'ai des revenus à présent. Ben à la base, en fait, j'avais mon activité professionnelle. Ensuite, j'ai eu mes investissements immobiliers. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 10. Je ne sais plus à combien j'allais être bien quand j'ai lancé le podcast, peut-être 10. Et ensuite, bah, j'ai lancé le podcast et de là, c'est encore des autres revenus. Donc vraiment, ce qui est trop bien avec l'investissement immobilier, c'est non seulement ça fait augmenter votre patrimoine, mais aussi ça vous libère votre état d'esprit, le mindset. Et ensuite, bah, vous pouvez passer à d'autres phases de vie. Pareil, bah, Manu et Laure, là, que j'ai eu sur le podcast, ils étaient tous les deux aussi plus ou moins... Enfin, Manu n'était pas vraiment salarié, mais... Il avait une activité, là, il est en train de changer d'activité et tout. Ils ont acheté, je ne sais plus, 4-5 lots depuis qu'ils sont arrivés au club. Donc voilà, eux, c'est des vrais exemples. Donc, il y en a des personnes que j'ai eues sur le podcast donc, qui ont arrêté grâce à l'immobilier. Après, franchement, ils ont tous relancé des activités d'une manière ou d'une autre parce qu'il faut bien faire quelque chose de sa vie, tout simplement. Et puis, l'argent, bah, plus on en a, mieux c'est. En tout cas, jusqu'à une certaine limite qui est assez élevée. Et donc, voilà. Et après, à côté de ça, il y a plein de personnes qui ont plein d'activités, dont moi. Et du coup, l'immobilier, bah, non seulement c'est un truc qui est excitant, ça rapporte. Et puis, comme on sait que les retraites vont être très, très limitées pour si vous avez moins de 50 ou 55 ans, et ben voilà, c'est une façon de voir l'avenir de façon plus sereine. Donc, voilà, j'ai déjà dit plein de fois, investir, c'est pas un luxe, c'est pas pour avoir plus d'argent aujourd'hui, c'est vraiment, on n'a pas le choix. On a, par rapport à nos parents, on a des vols en avion pas chers, on peut voyager partout, on a Internet sur nos téléphones. Voilà, la vie est quand même beaucoup plus simple de plein d'aspects. Et bah, par contre, on n'aura pas de retraite ou très peu de retraite. Et c'est pour ça qu'il faut prendre les devants. Et comment est-ce qu'on fait pour prendre les devants? On s'inscrit au webinaire de dimanche 31 août. Vous avez le lien dans la description, 20h30. C'est gratuit, par contre, les places sont limitées. Et on vous expliquera les trois secrets de que 95% des investisseurs immobiliers apprennent trop tard. Pas de fausses promesses, de bullshit qu'on a l'habitude, des trucs. Chaque fois, il y a une nouvelle idée qui sort. Un coup, c'était les micro-colocs, les logements atypiques, les... tiny house, les immeubles de rapport à Béziers, tout ça, pour faire de la courte durée, qu'est-ce que vous voulez. Là, on vous montre vraiment les résultats. C'est pas parce que en fait, tout le monde parle que des achats. Mais en fait, pour info, dans l'immobilier, comment on gagne de l'argent quand on en encaisse? C'est pas en achetant des trucs, c'est en les exploitant. Et on va vous expliquer comment ben, nous, on a fait avec Michel. Rendez-vous le 31 août, 20h30. Lien dans la description, sinon grosbillet.com/webinaire, webinare. On se retrouve le dimanche, prenez soin de vous, de vos proches, de vos gros billets, et il y a aussi l'événement à Toulouse dont vous avez le lien dans la description si vous voulez accélérer. À très bientôt, bye bye.